John m'a fait une suggestion, c'est de parler un petit peu vocabulaire. Alors, dans la dernière intervention, on fera allusion aux salafistes, islamistes, mais pour faire simple, hein, pour déjà, comment dire ça, prendre un petit peu d'avance, y a islam, c'est le nom de la religion. Musulman, c'est l'adjectif, c'est le nom qui décrit un adepte de l'islam. Islamique, c'est en quelque sorte un synonyme de musulman. Maintenant, quand on dit islamiste, c'est comme quand on dit communiste, c'est-à-dire il y a une dimension politique, c'est une idéologie. Donc les islamistes sont des musulmans politisés qui ont un programme politique. Par exemple, Ennahda, en Tunisie, c'est un mouvement islamiste. Les frères musulmans en Égypte, c'est un mouvement islamiste. Et puis les salafistes, ce sont ceux qui veulent vivre selon l'exemple des compagnons de Mohammed aux origines de l'islam. Et c'est pour ça que le salafiste typique, il a une barbe, il porte le calot. Il a des pantalons qui sont des genre Bermuda, il porte une tunique, comment est-ce qu'on dit? C'est pas, c'est djellaba, c'est, je me souviens plus du nom, tunique blanche généralement. Ils n'utilisent pas une brosse à dents pour entretenir leurs dents, ils utilisent un petit bois qui s'appelle le savak, que Mohammed est supposé avoir utilisé. Leur but, c'est de ressembler à Mohammed dans les moindres détails de la vie courante. Ce sont les salafistes. Et par exemple, Hani Ramadan, ils sont du mouvement salafiste et en même temps islamiste, parce que le fondateur, le grand-père de Hani Ramadan, c'est Hassan el-Banna, le fondateur des frères musulmans en 1928 en Égypte. Simplement, il ne s'appelle pas Banna, parce que. Voyons, pourquoi? Parce que il s'appelle Ramadan parce qu'il y a un certain Saïd Ramadan qui a épousé une fille albana. Et voilà comment Hani et Tarek s'appellent Ramadan. Mais leur grand-père maternel, c'est Hassan el-Banna. Voilà, c'est pour clarifier les termes les plus courants. Comment? Oui, tout à fait. Maintenant, on va aborder un autre sujet, mais qui est un sujet extrêmement pratique, c'est que lorsque vous discutez avec les musulmans, très vite, les musulmans vous disent: Ah, mais non, c'est pas comme ça. Non, non, c'est pas ça la foi. C'est pas comme ça. Mais ça dépend encore des contextes. Si le musulman se trouve dans une situation où il n'est pas en supériorité, souvent, les musulmans disent, mais on croit comme vous. Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de similitudes. Voyons. Par exemple, voilà, quelques similitudes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Musulmans et chrétiens croient qu'il y a un seul Dieu. Dieu est éternel, il gouverne le monde, oui. Dieu a révélé sa parole aux hommes, oui. Les êtres humains sont pécheurs, oui. Dieu pardonne les péchés, oui. Le Coran et la Bible parlent tous deux de personnages tels qu'Abraham, Moïse, Noé, Marie, Jésus, Noé, Salomon, Suleyman. Suleyman, c'est Salomon. Daoud, c'est David. Yahya, c'est Jean. Yahya. Oui, on a un certain nombre de points communs. On croit aussi qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis. Et vous savez, il ne faut pas mépriser ces points communs. Parce que quand vous cherchez à entrer en contact avec les gens, il vaut mieux commencer avec les points communs. Sinon, vous n'avez pas de conversation, hein. C'est fini. On se tourne le dos et puis ciao. Et vous savez, on a quand même des antécédents tout à fait encourageants. L'apôtre Paul, c'est très intéressant d'étudier ses discours dans le livre des Actes. Quand il s'adresse aux Juifs,
ben, il cite les prophètes, etc. Il dit, il y a une continuité entre le message que je vous annonce et ce qui a précédé. Mais quand il est avec des païens, comme à Lystre ou comme à Athènes, il ne parle pas du tout des prophètes parce que ça ne veut rien dire pour ces gens. Il parle du Dieu créateur. Parce que ça, Dieu créateur, ça on peut comprendre. Eh bien, avec les musulmans, il faut chercher les points de convergence ou les points de contact. Mais évidemment, vous n'êtes pas dupes. Et puis eux non plus d'ailleurs, ils ne sont pas dupes. Que derrière les similitudes, il y a un monde de différences. Et ça donne lieu à toutes sortes d'objections. Et on va examiner un certain nombre de ces objections. La première que je vous propose, c'est la Bible n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que croient les musulmans ? J'ai déjà fait un petit peu allusion auparavant. Ils croient que le Coran contient tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été révélé auparavant, dans les révélations antérieures. Il y a d'ailleurs une sourate, la sourate 548, qui dit « Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre, le Coran, avec la vérité pour confirmer le livre. » C'est un autre livre. C'est le livre des gens du peuple du livre. L'Ancien, Nouveau Testament. Le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, comment est-ce que le Coran peut à la fois confirmer le livre et prévaloir sur lui, puisque c'est censé être la même chose. Et pourquoi est-ce que prévaloir, si vous prévalez sur quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur en vous. Alors l'explication à tout cela, c'est que les écrits des révélations antérieures ont été falsifiés. Pour les musulmans, il y a toute contradiction entre le Coran et la Bible a une explication très simple. Quand la Bible dit autre chose que le Coran, eh ben c'est que la Bible a été falsifiée. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre explication. Le problème avec cette position, c'est que les musulmans affirment cela de manière très dogmatique, mais il n'y a personne qui a sérieusement réfléchi sur le problème, sur les questions que ça soulève, et jamais, sauf quelques intellectuels, quelques savants musulmans qui vivent et travaillent en Occident et qui ont osé le faire. Mais sinon, personne n'ose se livrer à une critique textuelle du Coran, c'est-à-dire d'étudier, de faire une étude comparative des différents manuscrits coraniques. Parce qu'il existe différents manuscrits coraniques. Mais ça, c'est un sujet absolument tabou. Ça, c'est le début de l'impiété pour, le musulman moyen. Donc, la Bible, pour les musulmans, n'est plus la parole de Dieu parce que les chrétiens et les juifs l'ont falsifiée. Seulement, il y a un petit problème avec cette affirmation, c'est qu'on ne peut pas la soutenir avec le Coran, parce que le Coran dit autre chose. Le Coran, au contraire, il reconnaît la valeur des livres antérieurs et de l'Évangile. Je vous cite, je vais voir si je trouve une sourate. C'est un peu plus loin. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà, je crois que c'est celle-là. Sourate 3, voilà. Sourate 3, 3, 4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant détenteur du pouvoir de punir. Là, dans le texte du Coran, dans ce livre-là, il est dit, il fit descendre la Torah et les évangiles auparavant. Et il n'est pas question de livres falsifiés. Sourate 6, 34. « Certes, des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. » Alors, vous pouvez dire aux musulmans, mais le Coran dit que la Torah et les évangiles ont été donnés par Allah. Et le Coran dit que nul ne peut changer les paroles d'Allah. Donc comment est-ce que tu expliques que beaucoup de musulmans pensent que la Torah et les évangiles ont été falsifiés? Est-ce que Dieu dormait? Vous voyez la contradiction? Mais les musulmans, comme nous tous, hein, c'est typique de la situation de gens qui sont dans une secte, par exemple les témoins de Jéhovah. Ils ont la Bible. Avant, ils utilisaient la Bible second. Hein. Maintenant, ils ont leur propre traduction. Mais ils avaient la Bible second. Mais quand ils lisaient pas la Bible second. Ils lisaient à travers la grille de leurs commentaires. Et ils n'arrivaient pas à voir la divinité de Jésus, le sacrifice de Jésus. Ils n'arrivaient pas à voir. C'était caché. Les musulmans sont dans cette situation. Même quand ils lisent le Coran. Ils lisent le Coran, mais ils lisent le Coran en fonction d'une tradition qui leur dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas mort pour les péchés. Jésus n'est pas ressuscité. Jésus ne pardonne pas les péchés. Donc, formaté, conditionné par cette tradition islamique ancienne et forte, quand ils lisent le Coran, ils ne peuvent pas comprendre les perles qu'il y a dans le Coran. Donc, on peut poser à nos amis, mais là, ça suppose franchement un niveau de confiance. Moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau de confiance avec les musulmans que je connais. Parce qu'ils sont tellement défensifs. Quand ils sentent que vous avez des convictions, ils deviennent très défensifs. Et à la limite, ils ne veulent pas aborder les sujets spirituels. Parce qu'ils ont peur. Mais on peut leur poser des questions comme « Mais quand et pourquoi la Bible a été falsifiée ?» Pourquoi ils peuvent dire « Ah oui, oui, c'est parce que les chrétiens ne voulaient pas reconnaître Mohammed, donc... » Ils ont expurgé le texte biblique de toute référence à Mohammed. Oui, ça, ils peuvent expliquer. Bon, d'accord, mais quand? Je ne me suis jamais posé la question. Ah oui, d'accord. Mais et puis alors, qui? Qui parmi les juifs en fait cela? Je ne me suis jamais posé la question non plus. Et qu'est-ce que ceux qui n'ont pas participé à cette falsification ont dit des autres? Ah, mais ça, je ne sais pas. Vous voyez sur quoi repose leur conviction? C'est du vide. Ça n'a pas d'appui documenté. C'est ça la grande faiblesse de l'islam dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas documenté. Mais vous savez pourquoi ils y croient? Parce qu'ils ont une approche fidéiste. C'est-à-dire, je crois... parce que ma religion me dit de croire. Et je crois. Tandis que l'approche chrétienne, normalement, est une approche évidentialiste, c'est-à-dire, je crois, oui, mais j'aimerais comprendre pourquoi. J'aimerais qu'on me donne des évidences historiques. J'aimerais qu'on me montre la cohérence des enseignements. Je veux que ma conviction repose sur quelque chose de solide, qui soit documentable. Mais ce n'est pas le cas avec l'islam, dans beaucoup de domaines. Et dans celui-là. Et vous savez, il y a un truc génial, génial. C'est, il y a depuis quelques années, un site qui s'appelle sinaiticus.org. C'est en Angleterre. Et là, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou parce que là, vous avez... accessible sur Internet. Là, je vous ai fait une prise d'écran parce qu'on n'a pas... Mais vous pouvez aller là, vous voyez tout en haut à gauche, ça c'est le livre de Genèse. Genèse. Hein? Bon, le Codex Sinaiticus, il est très endommagé au niveau de l'Ancien Testament, mais il possède tous les livres du Nouveau Testament. Et si vous allez un petit peu plus loin, là vous voyez, ça c'est John. John, parce qu'il y a une version, c'est en Angleterre. Et là, vous avez... le texte
du Sinaiticus avec la traduction. Là, vous avez le texte grec en caractère grec. Et là, vous avez la traduction en anglais. Vous savez pourquoi c'est génial? Parce que les musulmans disent, il y avait une Bible originale avant Mohammed, mais après, les chrétiens et les juifs ont tout, ils ont tout brouillé. De quand date le Sinaiticus? Du 4 au 5e siècle. C'est-à-dire avant Mohammed. Et vous pouvez prendre ce texte, mais là, il faut vraiment des gens lettrés, hein, puis qui veulent connaître la vérité, parce que sinon, ils vont vous envoyer promener. Mais au moins, c'est réconfortant pour nous-mêmes. On a une preuve matérielle pour démontrer que la Bible que nous avons aujourd'hui entre les mains, elle n'est pas différente de celle que les chrétiens avaient avant Mohammed. Donc, toute l'histoire de la falsification de la Bible tombe à la poubelle. Ça ne tient pas. Simplement, les musulmans ne savent pas. Parce qu'ils sont trompés. Ils sont trompés par un esprit menteur qui est à l'œuvre, qui est à l'œuvre dans l'islam puissamment. Évidemment, je dis ça devant vous, mais une fois je dis ça devant une assemblée, hein, il y a une dame qui a été très fâchée. J'ai dit, bon, peut-être très librement, j'ai dit, le Coran est un tissu de mensonges. Cette femme, elle était choquée, c'était une chrétienne, hein, mais elle était choquée. Elle dit, mais comment, moi j'ai des élèves musulmans à l'école, est-ce que c'est ça que je dois leur dire? Non, c'est pas ça que tu dois leur dire, mais c'est un fait. Le Coran, c'est une construction. Et quand on parle de vérité, ça ne peut pas être juste 80% de vérité, ça doit être 100%. Sinon, ce n'est pas la vérité. Alors, on poursuit. Quand vous êtes face à ce problème de la falsification de la Bible, nous, on a besoin d'être réconfortés parce qu'il y a tellement de raisons de douter. Et comment est-ce qu'on peut répondre à la question de la Bible a été falsifiée? Eh bien, en se souvenant, qu'est-ce qui atteste de l'authenticité de la Bible? Vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce qui atteste que l'écriture qu'on a est fiable? Pardon? On peut invoquer Christ, oui. Mais si on pense à des... Une chose qui est souvent évoquée et dont Christ, au fond, fait partie, c'est la réalisation des prophéties. Il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées en Jésus. On peut documenter. C'est un argument extrêmement puissant. Ésaïe qui annonce plus de 700 ans à l'avance que Jésus naîtra d'une jeune fille, c'est-à-dire d'une vierge, qu'il souffrira pour les péchés, dans un langage qui n'est pas immédiatement compréhensible pour le lecteur du temps d'Ésaïe, mais qui devient transparent une fois que Jésus a accompli ces choses. On en peut beaucoup, le lieu de sa naissance virginale, son entrée à Jérusalem sur un ânon, le fait qu'il viendrait pour sauver et guérir, sa mise au tombeau, sa résurrection, tout ça. Ça, c'est du lourd, comme on dit. Deuxième point qu'on trouve aussi à l'intérieur de la Bible, c'est les témoins oculaires. Il y a eu des témoins de la résurrection. Ça n'a pas été une affabulation. Luc a basé la rédaction de son évangile, en partie, sur le témoignage des témoins oculaires. Paul lui-même dit, voilà, moi je suis le moindre de tous les apôtres. Mais il y a des gens qui ont vécu, qui ont témoigné de la résurrection de Jésus. Il y a 500 frères, ils sont encore vivants aujourd'hui. Et puis il y a aussi le témoignage de l'archéologie, qui confirme certains faits qui sont indiqués dans la Bible. Par exemple, les rouleaux de la mer morte ou les sites archéologiques égyptiens, palestiniens, babyloniens. Et il y a également le témoignage de l'histoire. Les historiens non chrétiens. Joseph, l'historien juif qui travaillait pour les Romains, qui parle de la crucifixion de Jésus. Il y a Tacite, l'historien romain du 1er siècle, qui confirme que Christ a été crucifié sous le règne de Tibère. Ce sont des preuves matérielles. Selon la décision de Ponce Pilate, Suétone, secrétaire d'Adrien, qui confirme ce que Luc dit en Actes 18, qu'à un moment donné, l'empereur Claude a dit aux Juifs, parce que c'était des perturbateurs les Juifs, des argumentateurs, des agitateurs. Et à un moment donné, Claude, il en a eu assez. Il a dit, allez les Juifs, dégagez maintenant. Pendant un certain nombre d'années, ils ont été exclus de Rome. Et l'empereur Claude, le Suétone confirme cela. On va faire un petit jeu. Je vous propose de vous mettre par deux. Une personne va être la personne musulmane et elle va vous dire « Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu !» Puis vous, vous allez lui répondre. Vous êtes d'accord de faire ce petit jeu? On prend 5 minutes. Vous avez entendu les arguments que je vous ai donnés. Hein. Maintenant, vous allez vous allez répondre gentiment à cette personne. Allez, on se donne 5 minutes. Et c'est juste pour défouler nos neurones, parce que là, vous êtes du côté des gens qui sont envahis par des flots de paroles. Maintenant, c'est votre tour de prendre la parole. Il faut vous révolter, là, les amis. Alors, oui, faites rapidement, parce que c'est vraiment 5 minutes. Hein. Sinon, on est là demain encore. Prenez-le comme un jeu. Hein. Vous n'avez pas une note à la fin. On s'amuse. Hein. Oui, ce qui arrive souvent dans le dialogue avec les musulmans, si on n'est pas, si on n'est pas bien préparé et si on n'est pas en bon état spirituel, en tout cas, c'est vrai pour moi, hein, il y a des arguments qui me mettent hors de moi. Je me dis, mais est-ce que les gens sont stupides ou quoi? Je suis comme ça intérieurement. Tellement, il y a des arguments, mais vous dites, mais est-ce que tu as un bloc de bois à la place de la tête ou quoi? Mais vous voyez, mais c'est le niveau d'aveuglement. Et ça montre qu'on ne peut pas gagner les gens à force d'arguments. On ne peut pas. Ça ne marche pas. Il faut pouvoir connaître les réponses, parce que d'abord, on en a besoin pour nous-mêmes. Mais vous n'allez pas gagner un musulman sur la base d'une controverse. C'est très rare. C'est très rare. Ce n'est pas totalement exclu. Mais ça peut arriver dans certaines conditions. Vous savez, il y a un copte qui vit aux États-Unis en sécurité, parce sinon il serait sûrement déjà mort, qui s'appelle Boutros Zacharias, Father Zacharias. Et lui, c'est un polémiste. Il a des émissions radio ou télé, et puis il prend des arguments, et il est un grand connaisseur de l'islam. Il connaît tous les classiques, il connaît les classiques musulmans, il connaît le Coran, et il montre leurs erreurs, leurs contradictions. Mais là, ce n'est pas vraiment un dialogue que vous avez avec une personne en face de vous. C'est quelqu'un qui est loin, puis si vous voulez arrêter l'Internet, vous pouvez, ou la télévision, vous pouvez. Mais il y a des gens qui, au Maroc ou en Afrique du Nord, se posent des questions à cause de ce Boutros Zacharias. Donc, ça fait partie du plan de Dieu. Je connais un autre homme qui s'appelle Jay Smith. Il est un missionnaire qui vit à Londres, et vous connaissez Hyde Park Corner à Londres. Il monte sur sa caisse à savon, et puis là, lui c'est un polémiste. C'est un polémiste et il est dans la polémique comme un poisson dans l'eau. C'est un homme qui a un tempérament d'avocat. Et il dit des choses très provocantes. Et alors il aborde des questions telles que l'islam, religion de paix, entre guillemets. Et il va démontrer que non. Une fois, je l'ai rencontré en Pologne il y a quelques mois, une fois, il a eu ce culot, il a pris le Coran et il avait un briquet. Il a fait ça devant la foule. Ça, vous avez l'attention des musulmans tout de suite. Hein. Et lui, il joue un peu avec les musulmans parce qu'il sait ce qui les fait chauffer. Donc, il les fait chauffer pour leur parler, pour les accrocher. Et puis, il a raconté une fois. Il était avec la foule, là, les musulmans qui étaient contre lui. Il y en a un qui est venu, qui a voulu le renverser de sa caisse. Et puis il y a un grand gaillard musulman barbu qui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ? C'est mon ami !» Mais vous voyez, les musulmans, il y a des choses qui les font monter dans les tours, Mais si vous avez de fortes convictions, ils vont reconnaître que vous avez de fortes convictions. Ils ne peuvent pas vous jeter comme ça. Ils disent pas, ils peuvent pas dire, toi, tu es un mécréant, tu ne connais rien. Ils disent, non, ils disent, toi, tu es un chrétien, oui. Non, on ne croit pas ce que tu crois, mais on est obligé de reconnaître que toi, tu crois. Devant les musulmans, il ne faut pas être tiède. Il ne faut pas avoir honte de nos convictions. Moi-même, je dois dire, je n'ai pas toujours été très fier de mes convictions. Une fois, j'ai proposé de prier à un ami musulman qui habite pas loin de chez moi. Il était au chômage. Je lui ai dit, Hakim, est-ce que tu accepterais que je prie pour toi? Mais j'avais un problème. Comment est-ce que je vais finir ma prière? Au nom de Jésus! Puis j'ai décidé non. Je ne vais pas dire au nom de Jésus. Je ne veux pas l'offenser inutilement. Et puis, quand on lit la prière sacerdotale, Jésus ne nous dit pas, vous terminez votre prière au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais là, je me suis dit après coup, j'aurais pas dû craindre de dire, Père, je te prie au nom de Jésus. J'aurais pas dû. Quoi qu'il en pense, j'aurais simplement dû vivre mes convictions sans autocensure. Mais ça demande beaucoup de sagesse. Parce qu'on sait aussi que Jésus, quand il était devant une foule d'incrédules, eh bien, il ne pouvait pas dire grand-chose et il ne disait pas grand-chose. Donc nous, il faut aussi qu'on tienne compte des gens en face de qui on se trouve. Ça ne sert à rien de donner nos perles aux pourceaux, comme dit Jésus. Si on est devant des musulmans hostiles, ça ne sert à rien de leur donner des bâtons pour nous frapper. Ce n'est pas spirituel. Mais si on a des musulmans réceptifs, il faut avec grâce, pas de manière arrogante, mais avec grâce, comme quelque chose qu'on vit authentiquement et simplement, affirmer ce que nous croyons. Pas pour leur donner une leçon, mais simplement parce que c'est ce que nous sommes. Et ça, ça va les toucher. Néanmoins, mon ami musulman, mon ami Hakim, quand on était sur le palier de la porte, il m'a serré la main. Il m'a bien regardé dans les yeux. Puis il m'a dit merci. Merci d'avoir prié pour moi. Oui, ça vaut le coup. C'est rare les musulmans qui refusent que vous priez pour eux. Donc, soyez encouragés. N'hésitez pas à offrir la prière aux musulmans. Parce qu'ils sont respectueux. Ils savent que la prière, c'est sérieux. Et ils pensent que, certains musulmans, ils pensent que les chrétiens obtiennent plus de choses dans la prière qu'eux. Alors, autre objection. Les différentes versions de la Bible contiennent des textes contradictoires. Vous savez, les musulmans, j'ai souvent ce sentiment, les musulmans ont besoin pour croire d'être convaincus que la Bible est fausse. Parce que si la Bible n'est pas fausse, alors là, ils sont vraiment en mauvaise posture. Donc, il faut que la Bible soit fausse. Et alors, une des choses qu'ils trouvent à dire, c'est « Ah oui, mais il y a des tas de Bibles tout à fait contradictoires. » Et pour eux, dans leur imagination, surtout s'ils n'ont rien lu le même, ils voient quelque chose de totalement ténébreux. Mais vous savez ce qu'ils veulent dire en réalité, les différentes traductions, les différents textes de la Bible, c'est simplement différentes traductions. Ils parlent de traductions. Et là, vous pouvez leur dire « Écoute, mon ami, est-ce que tu t'es rendu compte que le Coran est disponible en différentes traductions ?» Il y a la traduction du roi Fahd, il y a la traduction de Sami Al-Deb, il y a la traduction Blacher, il y a la traduction Kazimirski. Hey, c'est le Coran, mais quand tu lis le texte, ce n'est pas les mêmes mots. Ben, avec la Bible, c'est la même chose. Vous voyez, tout un truc dramatique, puis vous pouvez ramener les choses à quelque chose de très simple. Ce sont des versions différentes, ça ne veut pas dire que le message est transformé ou altéré. Ensuite, une autre objection. Ils ont aussi des tas d'objections concernant Jésus. Alors, vous en avez certainement déjà entendu. Jésus n'est qu'un prophète ordinaire. Ça n'est qu'un prophète ordinaire. Mahomet, par contre, est le dernier, est le plus grand, est le plus important des prophètes. Seulement, ça c'est la croyance populaire. Parce que là, à nouveau, le Coran peut nous être utile. Qu'est-ce que le Coran dit de Jésus? Bon, il y a toute une tradition islamique qui introduit tellement de notions étrangères à l'évangile au Jésus de l'évangile que vous ne vous y retrouvez plus. Et il y a une très solide tradition en islam à propos de ça. Il y a Jésus a fait ceci, Jésus a dit cela, etc. C'est à aucun fondement biblique. Mais néanmoins, quand vous parcourez le Coran avec des yeux régénérés, vous voyez des choses quand même assez étonnantes. Vous savez, il y a deux époques. Dans le Coran, il y a les sourates médinoises qui ont été inspirées, entre guillemets, à Mohammed quand il était à Médine, et puis les sourates mécoises. Alors, je vais vous citer quelques sourates médinoises de la deuxième partie. Par exemple, 3:45, qui nous dit, rappelle-toi, quand les anges dirent, « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. » Vous vous rendez compte? Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Le Coran qui affirme, « Jésus sera illustre ici-bas et dans l'au-delà. » Et l'un des rapprochés d'Allah. Si, c'est le Messie. Le Coran n'attribue ce titre à personne d'autre que Jésus. Même Mohammed ne porte pas le titre d'Al-Masih. C'est fort. Pardon ? Oui, ça c'est les chiites. C'est l'imam caché. Ouais. Oui, il y a. C'est vrai que c'est le Mahdi. Le Mahdi, ouais. Oui, oui. Le chiite attend le Mahdi, oui, c'est vrai. Oui. Là, on parle de l'islam sunnite, qui est l'islam majoritaire. Regardez encore 458. Mais Allah l'a élevé vers lui. C'est dit de Jésus. Allah l'a élevé vers lui. On sait que Jésus est retourné aux cieux. Il est le Messie. Vous voyez là, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Bon là, il y a une restriction. Sa parole qu'il envoya. Jésus est la parole d'Allah. Qu'il a envoyé à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Il est aussi celui qui donne la vie, Jésus. Et quand Allah dira, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit, bon, au berceau, etc. » Mais « Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né, le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. » Une telle chose n'est jamais dite de Mohammed. Jamais. Voyez les points de convergence. Ou bien, et là on est dans les sourates mécoises, sourate 19:19, il dit Gabriel, donc c'est Gabriel qui parle, à Marie, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Les musulmans savent très bien ce que ça veut dire « fils pur », ça veut dire « sans péché ». Est-ce que Mohammed est sans péché? Certains musulmans vont vous dire oui. Oui, il est sans péché. J'ai posé la question une fois à un imam à Lausanne. Il m'a dit « oui, Jésus est sans péché ». C'est faux. Même le Coran dit que je peux vous donner un… Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, heureusement que vous êtes là, hein. Heureusement que vous êtes éveillés. Oui, ça c'est un lapsus, j'espère. Les Freudiens vont dire que c'est significatif, probablement. Mais... dans un, Je vais vous trouver un passage absolument hallucinant à propos de Mohammed dans le Coran même. Voilà ce qui est dit, sourate 48. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons, il parle à Mohammed, nous t'avons certes accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs. Ah ouais, Mohammed était sans péché. T'as lu le Coran ? Et ce n'est pas le seul passage. Il y a d'autres passages qui parlent du péché de Mohammed. Donc Jésus est sans péché, c'est affirmé par le Coran, et le Coran affirme que Mohammed a des péchés. 19-20, elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ?» C'est allusion à la naissance virginale. Et puis 19-21, il est un signe pour les hommes, pour les gens. Les musulmans disent, oui, non, Jésus, c'était un prophète. Oui, oui, mais juste pour les juifs, pas plus. Juste pour les juifs. Et le Coran dit non. Pour les gens, pour les hommes. Il est 19-34. Il est parole de vérité. Parole de vérité. Voyons, où est-ce qu'on est ? 21-83. Voyez, là, il est aussi un signe pour tous les hommes. Nous fîmes d'elle ainsi que son fils un signe pour l'univers. C'est fort, hein? C'est fort. Jésus a la connaissance de l'heure du jugement. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Et quand Jésus apportera les preuves. Il est venu avec des preuves, les preuves de son ministère, les miracles. Donc quand les musulmans disent Jésus est un prophète ordinaire, si vous maîtrisez un petit peu le Coran, vous pouvez, et s'ils sont réceptifs, vous pouvez planter des doutes terribles dans leur esprit. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Moussa Koné, moi, fils d'imam. Ça vaut le coup de lire ce petit livre, ce témoignage fantastique. Lui, il était troisième génération d'imam. Il vit actuellement. Il vit en Côte d'Ivoire. Il y a une question qu'il a travaillée, qu'il a posée à son père quand il était jeune. Il a dit, papa, est-ce qu'on peut être sûr d'aller au paradis. Et son père lui dit, écoute, ça, personne ne peut dire. Personne ne peut être sûr d'aller au paradis. Et ça, ça ne l'a pas laissé tranquille. Pendant des années, il a gardé cette question. Et puis, il a travaillé sur un bateau, une station de forage, sauf erreur. Puis le capitaine du bateau était un chrétien. Une fois, il lui a rendu visite. Il lui a apporté la Bible. Et Moussa lui a dit, mais écoute, est-ce que tu me provoques? Tu sais que je suis musulman. Il a pris la Bible et a ouvert le hublot à la mer. Mais il avait toujours cette question en lui qui revenait. Comment est-ce qu'on va au paradis? Il n'avait pas de réponse. Et je passe sur les détails, mais il a été amené où finalement il s'est rendu compte, il lisait le Coran et il a commencé de découvrir ce que le Coran dit de Jésus. Il a commencé de douter du Coran. Il a commencé de chercher à prendre contact avec des chrétiens. À un moment donné, il est arrivé à un moment crucial dans son expérience. Il a dit à Dieu, mais où est la vérité? Montre-moi où est la vérité. Il avait eu des apparitions de Jésus dans sa cabine. Il était sûr que c'était Jésus. Mais ce qu'il raconte était un moment. Il a ouvert le Coran, ce livre vénéré, respecté. Il a ouvert le Coran. Et tout à coup, il a vu des braises tomber sur son Coran. Moi, si je ne connaissais pas la personne, hein, je dirais, mais c'est un affabulateur, franchement. C'est ridicule comme histoire. mais je ne mets pas en doute sa parole. Parce qu'il est un chrétien aujourd'hui qui vit sa foi et qui évangélise les musulmans. Une braise tombe sur son Coran, une deuxième, une troisième, il regarde le plafond, il ne voit rien. Mais ça consume le Coran dans ses mains, jusqu'à la couverture en carton. Pour lui, c'était la réponse de Dieu. Et il mentionne d'autres choses. Et finalement, il est allé voir des chrétiens pour dire « Qu'est-ce que je fais pour devenir chrétien ?» Mais tout a commencé parce que le Coran disait certaines choses à propos de Jésus. Il s'est rendu compte, mais Jésus a une position supérieure à celle de Mohammed. J'ai toujours dit le contraire, mais dans le Coran, quand je lis le Coran, je vois que Jésus est supérieur à Mohammed, même dans le Coran. Il y en a qui disent, oui, mais c'est pour cela qu'on dit qu'il y a des contradictions internes au Coran. Le Coran dit une chose et son contraire. Pardon ? Oui, bien sûr. Selon la tradition. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison, c'est sûr. Mais tu vois, ce musulman qui connaissait tout de la tradition, il était lui-même un musulman fervent, il conduisait les musulmans dans la prière, il les appelait à une vie de piété. Mais c'est lui-même qui arrivait à remettre en question sa propre tradition. Parce que l'esprit a commencé de l'éclairer. Parce qu'il y avait une soif en lui, il y avait une honnêteté en lui qui est un don de Dieu. Par exemple, le Coran dit, non, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Les Juifs racontent des salades en fait. C'est pas Jésus. Mais quand lui, il a lu les textes, il s'est rendu compte. Il y a un mot arabe qui dit « mettre à mort ». Peut-être qu'on va aborder, c'est un peu plus tard dans les objections, mais là on est en avance sur le programme. Et selon les traductions, la traduction Kazimirski, elle dit « je vais t'infliger la mort » ou quelque chose comme ça. Et puis il y a d'autres traductions qui sont beaucoup plus douces. Parce que c'est très gênant pour les musulmans de dire que Allah a mis à mort Mohammed parce que ça tente à confirmer l'enseignement chrétien. Donc ils préfèrent dire « je t'enlèverai », quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus soft. Mais Moussa Kone, lorsqu'il est tombé là-dessus, il a dit « mais nous croyons que Dieu a fait croire à la foule que Jésus était crucifié, mais qu'en réalité c'était quelqu'un d'autre, probablement Judas qui a été crucifié à sa place. » Il s'est rendu compte, mais d'abord, ça ne peut pas correspondre au caractère de Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas être un menteur. Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas nous tromper. C'était sa conviction à lui. Hein. Il ne peut pas. Donc ça, déjà, ça cloche. Et puis dans le même passage, quelques versets plus tôt, il est question, dans les mêmes termes, de la mort de Jean-Baptiste. Or, personne ne met en doute la mort de Jean-Baptiste. Il s'est dit, mais comment se fait-il que quand on parle de Jean-Baptiste, on reconnaît qu'il est vraiment mort. Quand le même verbe est utilisé pour Jésus, on dit non, il n'est pas mort. On dit mais ça cloche. Ça ne marche pas. Mais pour arriver à ce stade-là, c'est des années, ça lui a coûté des années de recherche, pour oser douter du Coran. Vous savez ce que ça veut dire pour un musulman croyant ? Je me souviens d'avoir discuté justement à Belfort, hein, avec un Algérien à Belfort. Il m'a dit, tu sais Christian, pour nous musulmans, commencer de poser des questions sur Dieu, c'est blasphémer. Donc, si vous posez la moindre question et que ça équivaut à un blasphème, qu'est-ce que vous faites? Vous ne posez pas de questions. Vous faites confiance à l'enseignement qu'on vous donne parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Et la pensée de beaucoup de musulmans est totalement fossilisée. Du point de vue spirituel, hein, pas dans les autres domaines, mais du point de vue spirituel, la pensée est bloquée pour beaucoup, par peur du blasphème. Voilà, alors il y a des trésors dans le Coran à propos du témoignage. Et à mon avis, moi je préfère cette approche-là que de répondre aux objections des musulmans. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, la Trinité c'est indémontrable, etc. Pourquoi est-ce qu'on va passer des heures à essayer de démontrer la Trinité quand ça a pris au moins 500 ans à l'Église d'arriver à une doctrine concernant la Trinité, franchement? Mais vous vous rendez compte, ça a été difficile pour les chrétiens, mais qu'est-ce que c'est pour un musulman? C'est impossible, c'est mission impossible. Il ne faut pas perdre de temps avec ces genres de sujets. Il faut simplement affirmer, mais pas essayer de convaincre. Vous affirmez. Moi, je dis à mon ami Hakim, une fois, je lui dis, écoute, Hakim, tu dois comprendre une chose. Je ne crois pas en trois dieux. Je crois en un seul dieu. Mais je n'essaye pas de lui expliquer. Mais simplement, je renvoie la balle dans son camp pour que lui, il arrête de penser ou qu'il soit troublé par le fait que les chrétiens lui disent « Je ne suis pas trithéiste, je suis monothéiste, comme toi. » Mais on ne comprend pas les choses de la même manière. Je passe sur les affirmations « Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus ne peut pas être Dieu, Jésus n'a pas été crucifié. » Vous savez ce qu'ils disent? Il y a trois théories à propos de Jésus crucifié. Personne n'a été crucifié. Les gens ont simplement halluciné, mais il n'y a pas eu de crucifixion. Deuxième théorie, c'est que Jésus a été crucifié, mais il n'est pas mort. Il s'est simplement évanoui et quand il était dans le tombeau, il a repris ses esprits. Il a discrètement poussé la pierre et il s'est enfui. Et il est allé vivre au Pakistan où il a été enterré. Ça, c'est la théorie de certains. Et puis, la troisième théorie, c'est qu'une personne a été crucifiée à la place de Jésus. Personne ne dit qui, mais au fond, le candidat tous désigné, c'est Judas. Parce que lui, il le mérite bien. Voilà la logique musulmane. Et il faut comprendre que c'est très logique pour les musulmans de rejeter énergiquement l'idée de la crucifixion. Parce qu'ils admirent Jésus. Ils respectent Jésus, avec beaucoup de limitations, mais ils respectent Jésus. Et leur idée, c'est que Dieu fait toujours triompher ses prophètes. Il est impossible que Dieu soit du côté de ceux qui sont défaits. Dieu gagne toujours, parce qu'il est le plus grand. Donc, comment concilier cette mort de Jésus avec cette idée que Dieu est toujours le plus grand? Il triomphe de toute situation. Il fait avec les hommes ce qu'il veut. C'est totalement incompatible. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu. C'est un mystère. Mais en réalité, c'est un mystère. Hein. Est-ce que nous, on comprend l'amour de Dieu? On reçoit, on bénéficie de l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'on comprend la profondeur? Non, c'est une folie. C'est complètement fou. On ne fait pas le tour de l'amour de Dieu, on ne comprend rien. On dit merci. On dit merci, mais c'est tout. C'est comme vouloir expliquer la Trinité. Qu'est-ce qu'on comprend à la Trinité, franchement? C'est un mystère. Et c'est bien qu'on touche aux limites de nos aptitudes intellectuelles à expliquer. Ce n'est pas mauvais d'expliquer. Hein. Dieu nous a donné une intelligence pour quelque chose. Mais devant Dieu, à un moment donné, on s'arrête et on dit, tu es majestueux. Et puis ça me suffit. Tu es majestueux. Je ne peux pas expliquer la majesté, mais tu es majestueux. Ça remplit mon cœur. Merci. Si on quitte cette position, on devient des rationalistes, rassis, morts, perdus. Perdus pour l'Évangile. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme temps? Il nous reste 20 minutes, oui. Alors, il y a encore quelques objections. Bon, oui? Oui? Alors, surtout pas trinitaire. Non, non. Trinité. En fait, le Saint-Esprit, pour eux, c'est l'ange Gabriel. C'est celui qui fait le va-et-vient entre Mohammed et Dieu, ou la mère du livre, qui est ce livre qui est près de Dieu. Et dont l'ange Gabriel prend des fragments et il les descend vers Mohammed qui les dit sans aucune, comment est-ce qu'on peut dire ça, sans exercer lui-même aucune influence sur la révélation. Et c'est là que la doctrine de la révélation islamique est très différente de la doctrine chrétienne de la révélation. Dans la doctrine chrétienne de la révélation, Dieu, par son esprit, révèle son message à des hommes qui mettent ce message dans une forme qui correspond à leur personne. Jean, il n'écrit pas du tout comme Pierre ou comme Paul, et Moïse n'écrit pas comme Ésaïe, par exemple. Parce que Dieu, il nous a créés, il aime l'exemplaire unique que nous sommes, et ça ne disparaît pas quand des gens sont appelés à porter sa révélation. C'est ça le mystère, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a à la fois il y a la réunion du divin et de l'humain dans une personne humaine. Et la représentation la plus parfaite de ça, c'est Jésus. Il est homme et Dieu en même temps. Et nous, les prophètes, dans une petite mesure, ils ont... faut faire attention à ce qu'on dit. Mais ils ont goûté à quelque chose de la symbiose possible entre l'humain et le divin. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui permet la création artistique et la création dans le domaine scientifique. C'est que Dieu respecte notre créativité, il respecte notre originalité et il se réjouit de ce que nous sommes, exemplaires uniques, offerts aux autres. Nous donnons notre vie aux autres, nous offrons ce que nous sommes aux autres. C'est beau, le projet de Dieu, il est magnifique. Dans la doctrine coranique, Dieu est si grand, si inatteignable, si insondable, que quand son message passe à travers l'homme, il ne faut pas que l'homme intervienne ou s'immisce dans le message, parce que ça le dénaturerait, ça le souillerait. Par conséquent, Mohammed, il y a comme une conception mécanique de la transmission. Mohammed n'a rien mis de lui-même dans la révélation. Mais ça, c'est la théorie. Hein. Ça, c'est la théorie. La vérité, elle est tout autre. Le message est très mahomédain. C'est vraiment sorti de lui. Est-ce qu'il était inspiré par un esprit? Quand les savants musulmans décrivent les temps où Mohammed était en état d'inspiration, on dirait que c'est quelqu'un qui est épileptique, il y avait de la mousse sur sa bouche, il était prostré, il ressortait de là épuisé. C'est vrai que lorsque Jean, dans l'île de Patmos, ou lorsqu'Ésaïe, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont été subjugués. Mais ils étaient subjugués par la gloire de Dieu. C'est vrai que Daniel, qu'il était dans un état de prostration à un moment donné, à cause des révélations que Dieu lui a données. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des états beaucoup plus normaux. Quand Paul a écrit ses lettres, franchement, ça a dû se passer tranquillement. Il discutait avec son secrétaire ou avec les autres hommes qui étaient autour de lui. Il concevait la lettre, mais c'était conduit par l'esprit. Il n'y avait pas ces expériences mystiques, bizarres ou extrêmes. Voilà. Donc, si vous demandez à Moussa Koné ce qu'il pense, il pense que il pense que Mohammed était certainement inspiré par des esprits menteurs. Parce que ça existe, les esprits menteurs. La Bible le signale clairement. Alors, les chrétiens ont un autre Dieu. Vous savez qu'en Indonésie, par exemple, vous avez peut-être lu ça, hein, les musulmans indonésiens veulent interdire aux chrétiens indonésiens d'utiliser le nom Allah. Ils disent, ça c'est un nom musulman, vous n'avez pas le droit de le toucher. Mais en réalité, le nom Allah était déjà utilisé avant l'islam, par les chrétiens. Mais c'est leur idée. Il faut développer le particularisme de l'islam. Il n'y a pas de péché originel. Ça, c'est un des arguments des musulmans. Si vous lisez sourate 7, vous verrez, ça décrit un quart d'heure encore. Sourate 7 décrit ce que nous appelons la chute, l'histoire d'Adam et Ève, leur désobéissance, etc. Il n'est pas question n'y a pas la notion théologique de chute dans l'islam. Simplement, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, et encore, ce n'est pas clair dans l'islam, il semble que Iblis ou Shaitan a révélé à Adam et Ève leur nudité. Il n'y a pas de question, sauf erreur, de fruits auxquels Adam et Ève ne devaient pas toucher, ne devaient pas manger. Mais quand Dieu vient vers Adam et Ève, ils reconnaissent tout de suite qu'ils ont fait quelque chose de mal. Puis ils disent, oh, on a fait quelque chose qui était mauvais pour nous-mêmes. Mais dans le récit biblique, c'est pas juste qu'Adam et Ève ont fait quelque chose de mauvais pour eux-mêmes. C'est vrai, ça a été une des conséquences. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offensé Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont préféré une autre voie que celle de Dieu. Ils ont retiré leur confiance à Dieu, en quelque sorte. Et ça a entraîné la mort, une séparation. Vous connaissez la doctrine. Les musulmans n'ont pas ce concept d'état de perdition, d'échéance. Ils n'ont pas ce concept. Alors, très logiquement, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de sacrifices pour les racheter. Pour eux, c'est inutile, parce qu'ils ne sont pas séparés de Dieu. Ils ont juste des faiblesses. Ils ont juste des tendances qui sont un peu discutables. Mais ils ne sont pas séparés de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous allez leur annoncer, sacrifice sanglant pour le pardon de tes péchés, pour ta rédemption? Pour eux, nul. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont une notion de péché, oui.
Ils n'ont...
Oui. Alors encore une fois, je pense qu'on a une sorte de contradiction entre la vérité du cœur ou de l'âme, hein, qui correspond à la situation réelle dans laquelle on se trouve devant Dieu, même les musulmans. Les musulmans devant Dieu sont des pécheurs, des gens qui participent au péché parce qu'ils sont héritiers d'Adam et Ève, comme vous et moi. C'est la réalité, la vérité de leur âme et de leur cœur devant Dieu. Mais eux, ils ont une autre interprétation de leur situation personnelle. Et ils ont conscience, par exemple, si un homme est infidèle à sa femme, ah, il sait très bien qu'il n'a pas bien fait. Ça, il sait. Mais Dieu est miséricordieux. Donc, s'il confesse cela et que personne ne sait rien, eh bien, la vie continue. Mais il n'y a pas besoin. Il faut simplement reconnaître, se repentir, confesser. Il faut reconnaître qu'on a fait mal. Mais il n'y a pas besoin de sacrifice expiatoire. C'est totalement inutile à leurs yeux. Totalement. Donc quand on parle de Jésus mort pour les péchés, pour eux, mais c'est du bruit. C'est du bruit. Oui. Dans une large mesure. Pas seulement. Dans une large mesure. Tu ne peux pas. En principe, tu ne peux pas influencer là. Tu fais un maximum de bonnes œuvres et puis tu espères. C'est tout. Ben, ils vont te répondre très facilement. Prononce la shahada, fais le pèlerinage, fais les cinq prières par jour, donne la zakat, et puis... Non, pas un sacrifice sanglant. Ils ont un sacrifice sanglant, mais dont ils ne comprennent pas le sens. C'est le sacrifice du mouton. Non, ça ne garantit pas. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et par quoi commence les sourates, ça c'est aussi une autre contradiction. C'est là qu'on voit que le sens des mots change. Chaque sourate, hein, commence par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Comment est-ce que Dieu fait miséricorde? Il ferme les yeux sur le péché. C'est tout. Et là, on rejoint le problème qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de Dieu, qui n'est pas lié par sa parole. Dieu n'est pas, quand ses prophètes pêchent, il exerce la miséricorde. C'est-à-dire, il y a lui, souverain, dit, j'oublie ton péché. mais il n'y a pas la notion, comme l'islam n'insiste pas sur la sainteté de Dieu, ça c'est une grande différence avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Les musulmans sont toujours en train de nous bassiner en disant « Allah est le plus grand », etc. Oui, Allah est grand et Allah est unique, d'accord. Mais il y a une chose qui n'est pas du tout dans l'image que les musulmans ont de Dieu, c'est que Dieu est trois fois saint. Ça, tu n'entends jamais parler de la sainteté de Dieu. Ils n'ont pas ce concept. Donc, parce que Allah peut changer d'avis, donc il n'est pas lié, donc il n'est pas saint pour nous. Dieu peut décider de pardonner, mais c'est facile, il n'est pas saint. Il n'y a pas besoin de sacrifice, c'est lui qui décide. Hop, ça c'est effacé. Vous voyez, la révélation chrétienne, franchement, va beaucoup plus loin. La révélation chrétienne insiste constamment sur la sainteté de Dieu. Ancien, Nouveau Testament, c'est toujours la sainteté de Dieu. « Soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. » Les musulmans, sainteté, c'est quoi ? Pureté, pureté rituelle, oui, les ablutions, oui. Sainteté, c'est quoi ce concept ? On n'a pas. C'est pour ça qu'il y a un monde de différence entre Allah et le Dieu d'Abraham qui se révèle dans l'Écriture. C'est la sainteté qui fait la grande différence. C'est la ligne de partage. Et c'est pour ça, excusez-moi, je termine juste. C'est pour ça que notre manière de vivre la vie chrétienne est très importante. Il faut qu'on ait une vie sainte, pas une vie de pain bêche ou de bien-pensant, mais une vie réellement sainte, où dépendre de Dieu, remercier Dieu, obéir à Dieu est quelque chose de totalement intégré à notre vie ordinaire, où on est saint, mais sans chichi, on est saint parce qu'on est saint, c'est tout. Pas pour le montrer, on est saint parce que Dieu nous sanctifie. Et ça, il faut que ce soit vraiment au cœur de notre personne, dans tous les contacts qu'on a avec les gens. Parce que, quelle est la première critique vis-à-vis des chrétiens ? Hypocrite, hypocrite. Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit saint. Et c'est un tel défi d'être saint au quotidien. Saint dans sa famille, saint avec ses enfants, saint au travail, saint sur la route. Ouh ! Ouais, il vaut mieux. Il vaut mieux prendre le tram, ouais. Non, vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, on est en plein djihad évangélique, hein. Franchement, on a du travail, hein. Voilà, il n'y a pas de péché originel. Les prières des chrétiens ne comptent pas. Une fois, j'ai eu une discussion mémorable au téléphone avec une femme musulmane, probablement de Lausanne, mais qui était remontée. Alors, une personne vraiment chaud, hein, une intégriste. Elle me disait, ouais, et vous, les chrétiens, vous pratiquez même pas le jeûne et vous pratiquez pas la prière, blablabla. À un moment donné, je dis, écoutez, madame, est-ce que c'est une conversation que nous avons? Parce que moi, j'arrive pas à placer un mot. Ah oui, pardon, excusez. Mais pour elle, elle était convaincue, les chrétiens ne font pas le jeûne. Ils sont impies. Les chrétiens ne prient pas comme nous. Ils méprisent Dieu. Vous voyez, c'était cette idée, toutes les formes de l'islam, c'est ça la vraie piété. Et les gens qui n'ont pas ces formes de l'islam sont des koufers, des païens, des impies. Alors, ça prend du temps hein, pour que les gens puissent voir autre chose. Mais c'est la grâce de Dieu. Dieu fait son œuvre. Les musulmans, ils ne sont pas au-delà de la miséricorde de Dieu. Ils sont tout à fait dans le champ de la miséricorde de Dieu. Tout à fait. Voilà, on a encore 5 minutes. Vous avez déjà entendu parler de l'évangile de Barnabas ? Les musulmans, ils aiment bien l'évangile de Barnabas. Et ils disent, mais pourquoi les chrétiens ont fait disparaître ce cinquième évangile ? L'évangile de Barnabas, c'est quelque chose qui est apparu comme ça sur le marché au début du XVIIIe siècle en Hollande. Et bon, alors bien sûr, ça a tout de suite amené des grandes polémiques entre musulmans et chrétiens à cette époque-là. Et puis les gens qui l'ont étudié d'un petit peu près se sont rendus compte qu'il y avait quand même quelques anomalies dans l'évangile de Barnabas. Et ça sent beaucoup l'islam, l'évangile de Barnabas. Parce que dans cet évangile, Jésus nie être le Fils de Dieu. Ça, c'est intéressant. L'évangile de Barnabas dit aussi que Jésus a été crucifié à la place de Jésus et que Jésus, alors ça c'est bon pour les musulmans. Oui, Jésus a été, Judas a été. Merci. C'est moi qui ai besoin d'être un peu de café là. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Et puis, ils disent, alors ça fait du bien au cœur du musulman. L'évangile de Barnabas, dans l'évangile de Barnabas, Jésus annonce la venue de Mohammed. Ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre. Mais il y a d'abord l'évangile de Barnabas, c'est un long évangile, il y a je ne sais pas combien de chapitres, 50 ou plus. Et puis il y a des erreurs, il y a des coquilles si vous voulez. Certains qui sont vraiment très connaisseurs de littérature ont retrouvé une citation de Dante dedans, c'est le poète italien du XIIIe siècle. Et puis, chose très grave pour un musulman, l'évangile de Barnabas affirme que Jésus n'est pas le Messie. Ça, c'est une affirmation grave. Avant de continuer là-dessus, il y a aussi un autre détail. Ça, vous y avez certainement jamais pensé. Hein. Mais Jésus, il s'est rendu à Nazareth en barque dans l'évangile de Barnabas. Devait y avoir un canal à cette époque. On a découvert aussi l'allusion à des duels entre gens amoureux de la même personne. Ça, c'est une pratique du Moyen-Âge. Bref, pour ceux qui veulent voir et comprendre, c'est clair que l'évangile de Barnabas, c'est un faux, c'est une fabrication. On ne sait pas qui exactement, mais c'est possible que ce soit un musulman ou un converti à l'islam, quelqu'un qui peut-être avait une dent contre l'Église et qui a écrit ce texte pour semer la zizanie. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui, sur Internet, créent des rumeurs pour semer la zizanie. Ben voilà, c'est pas un sport nouveau. Il y a une autre chose. Oula, 2 minutes. Les musulmans disent que la Bible a annoncé la venue de Jésus. Et ils se réfèrent à 2 textes bibliques pour cela. D'abord, ils mentionnent Deutéronome 18:18. Vous savez où Oh, excusez-moi. J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, la Mahomet est annoncé par la Bible, excusez-moi. Pardon? Ils le disent, ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'ils veulent trouver dans la Bible des textes qui appuient cette affirmation. Alors, ils mentionnent Deutéronome 18:18. Certainement, vous le connaissez, c'est Dieu qui dit à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et les musulmans disent, eh bien, Mohammed présentait les mêmes caractéristiques que Moïse. C'est le texte dit, hein, là, Deutéronome 18, un prophète comme toi, oui, ben, comme Moïse, Mohammed a mené la vie d'un nomade, pas tellement que ça en réalité, parce qu'il a vécu à la Mecque et à Médine, mais enfin, c'est ce qu'ils disent, il a mené une vie nomade, les deux sont devenus les conducteurs de leur peuple, oui, leurs descendants conquirent la Palestine. Oui, les musulmans ont pris Jérusalem en 636. Et puis, oui. Ah oui, mais oui. Alors, on y vient. La promesse, je mettrai mes paroles dans sa bouche, mais ils disent, ben voilà, ça s'est réalisé parce que Djibril, l'ange Gabriel, il a pris les paroles de Dieu, puis il les a données à Mohammed pour qu'il les prononce. Et puis, Mohammed a été suscité du milieu de tes frères. Ils disent, mais ben ouais, les Ismaélites, où est le problème? Alors, comment est-ce qu'on répond? Déjà, le livre des Actes nous rend service, parce qu'en Actes 3, 13 et 23, c'est clairement, il y a un lien très clair qui est fait avec Deutéronome 18:18 qui annonce la venue de Jésus. Donc, on sait par le livre des Actes que l'interprétation correcte, c'est que le prophète dont il est question en Deutéronome 18:18, c'est Jésus.
Pardon?
Oui. Oui, oui. Ils ont... Oui, oui, bien sûr, ils ont... Oui, ils ont falsifié. C'est sûr qu'ils peuvent donner cette réponse. Nous, on a besoin déjà de comprendre comment répondre à ces questions. Maintenant que les gens acceptent ou non la réponse, ça c'est un autre sujet. Mais nous, on a besoin de réponses cohérentes. Sinon, on se met à douter. Sinon, et si on se met à douter, on a peur. Et si on a peur, on ne témoigne plus. On dit non, mais qu'est-ce que j'ai à dire aux gens, franchement? Après, on est comme certains protestants qui disent, mais comment? Vous priez pour la conversion des musulmans. Moi, j'ai entendu une responsable de l'église protestante de Jérusalem qui a été absolument choquée par le manuel 30 jours de prière pour les mondes musulmans. Elle dit, mais comment, mais vous priez pour la conversion des musulmans? Ouh! C'est grave comme faute. Prier pour la conversion des musulmans, vous vous rendez compte? Dans une société où tout le monde reste chez soi, hein, t'es musulman, tu restes musulman. Oui, non, on prie pour la conversion des musulmans. Jésus partage avec Moïse des caractéristiques que Mohammed n'a pas avec Moïse. Tous deux ont été les intermédiaires d'une alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance. Tous deux ont vu Dieu face à face. Tous deux ont accompli des miracles. Vous voyez, le sceau de Dieu sur ceux qui sont vraiment envoyés, les miracles, c'est comme dans le livre des Actes. Le message est annoncé aux païens, c'est confirmé par des miracles. Sinon, qui croirait? Les Juifs diraient, mais non, 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 ce n'est pas possible. Non, mais Pierre et Barnabas et Paul peuvent dire, Dieu travaille parmi les païens, en voici les preuves. Il manifeste sa puissance et sa grâce. Voilà, comme ça a sonné, je vais m'arrêter. Oui, en tout cas dans le Coran, oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Oui, oui. Tout à fait. Bien sûr, ils ont été obligés de créer ces traditions parce que très tôt, ils se sont confrontés aux objections des chrétiens et des juifs. Donc, ils ont dû ajuster leur présentation de Mohammed. Mais quand on se réfère au texte fondateur qui est le Coran, ça n'a pas de consistance, ça n'a pas d'appui. Ce sont des traditions fabriquées sur mesure. Voilà. Allez, on s'accorde une petite pause.